Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette. Bonjour, Odette.
Bonjour.
Aujourd'hui, ensemble, on va parler des garanties sur les produits. Et a priori, on ne connaît souvent que la garantie légale, mais il y a plusieurs garanties qui peuvent exister.
Tout à fait. Alors, il y a la garantie légale de conformité, effectivement, oui. Et il y a aussi la garantie des vices cachés. Donc, celles-là, elles sont inscrites dans la loi.
Très bien, oui.
Et ce n'est pas optionnel, donc ça s'applique systématiquement.
Quoi qu'il arrive, elles y sont.
Okay. Tout à fait, ça fait partie des droits des consommateurs et c'est inscrit dans la loi. Vient s'ajouter en plus celle dont parlent les vendeurs, c'est la garantie commerciale qui est proposée en plus.
Voilà, celle qu'on, voilà. En général, on vous vend en plus.
Oui, tout à fait.
Ou que vous pouvez négocier à l'achat.
Voilà, ou alors celle qui est mise, par exemple, sur les voitures, garantie 10 ans,
ah, oui.
etc.
Bien sûr.
Voilà, c'est une garantie commerciale. Ou...
Bien sûr. Alors, on va commencer par la garantie légale de conformité. Dites-nous.
Tout à fait.
Donc, si j'ai bien compris, elle est obligatoire?
Oui. Ça, c'est pas optionnel, elle est obligatoire, elle est inscrite dans la loi. Donc, d'accord. Le vendeur n'a pas le choix, il doit respecter ce droit. C'est celle qu'on va mettre en avant, la première.
Ok. C'est quoi les produits qui sont concernés par cette garantie légale de conformité?
Alors, c'est tous les produits. Neufs, d'occasion, reconditionnés, hein, ce qui est de plus en plus avec les téléphones ou autres,
ouais,
voilà,
sûr, ouais.
Qui sont vendus, alors là, seulement par un professionnel à un consommateur.
C'est-à-dire d'accord.
Entre particuliers, ça ne fonctionne pas.
Ça marche pas, évidemment, oui.
Elle s'applique également en cas de défaut provenant de l'emballage du produit, c'est-à-dire que l'emballage ne correspond pas. Mm-hmm. Les instructions de montage, j'achète quelque chose et en fait les instructions sont écrites en chinois. L'installation quand elle est faite par le vendeur, c'est-à-dire que si j'achète quelque chose que je l'installe moi-même, là ça ne va pas fonctionner.
D'accord.
Mais si j'achète un produit qui est installé
livré,
par le vendeur,
posé livré, chez moi,
voilà.
Ouais.
Ou réaliser sous sa responsabilité, c'est-à-dire que s'il le sous-traite à quelqu'un, il est quand même responsable,
d'accord.
puisque dans la facture au départ, il y aura bien mise en service ou pose, ou etc.
Alors on parle de garantie légale de conformité, c'est quoi un défaut de conformité?
Alors un défaut de conformité, c'est quand le bien ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Ce qu'on attend de lui, il ne le fait,
ça
pas,
fait pas,
une
ouais.
machine à laver qui ne lave pas,
voilà, ça fonctionne pas.
Exactement. le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou celle légitimement attendue par le consommateur. Donc, on avait une étiquette ou on a une publicité mmh. qui nous vend quelque chose. Et en fait, ce que j'ai en réalité devant moi ne correspond pas.
Ouais.
Le bien ne possède pas de qualité convenue avec l'acheteur avant la vente. Par exemple, j'ai commandé quelque chose de couleur bleue et quand on me le livre, c'est vert. Donc, ça ne correspond pas.
D'accord,
c'est une qualité ouais. convenue, donc effectivement, je peux exiger
ouais,
le changement.
Ouais.
Voilà. Le bien présente un défaut de fabrication, ou une imperfection, ou un défaut d'assemblage, donc c'est pas forcément qu'il ne fonctionne pas du tout, même s'il y a une petite imperfection, ça rentre dans la garantie de conformité.
Vous voulez dire qu'une rayure, par exemple,
tout
même minime,
voilà.
on peut demander à exiger que le produit soit changé?
Pas forcément changer, on reviendra après.
D'accord, on y reviendra, d'accord, très bien.
Mais on peut effectivement faire une réclamation.
Réagir en tout cas sur la garantie, ok.
Où l'installation n'a pas été faite correctement par le vendeur, ou le manuel d'installation est incomplet ou incompréhensible, c'est ce que je dis, voilà, c'est pas, il n'est pas clair et on n'y arrive pas. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout, parce que quelquefois, on a des modes opératoires qui sont un peu compliqués.
Évidemment.
Alors, par contre, si j'avais connaissance que le défaut, qu'il y avait un défaut quand j'ai acheté, c'est-à-dire que j'ai vu que j'ai le modèle d'exposition,
voilà, par exemple,
il a une petite rayure, etc., je le savais,
c'est ça, là,
j'ai acheté
pas,
quand
bah
même.
Oui.
Voilà, donc
c'est mon problème, c'est
voilà,
plus le point du vendeur. Ouais.
J'ai peut-être négocié une petite remise, etc., mais je ne peux pas revenir après en disant il y a un problème,
il est rayé,
tout à fait.
Combien de temps on a pour agir et contre qui?
Alors, pour les produits neufs, ça va être 2 ans après l'achat. Pour les produits d'occasion, ça va être 1 an.
Très
donc
bien.
Ces produits, c'est aussi véhicules, c'est aussi etc.
Oui.
Ça vaut aussi pour les voitures,
donc,
par exemple. Donc une voiture
d'occasion. Le reconditionner aussi, par
tout
exemple, téléphone portable reconditionné,
exactement.
Vous avez 1 an obligatoire.
Alors les reconditionner, quelquefois sur les sites, c'est 2 ans, mais bon, pas toujours. Mais effectivement, quand c'est d'occasion, c'est 1 an.
Très bien.
Le défaut ou la panne suffit. Hein. Si le vendeur conteste le défaut, c'est lui qui doit prouver qu'il n'y existait pas au moment de la délivrance du bien. Donc là, il aura du mal de le prouver.
C'est important de le dire. C'est bien au vendeur de le prouver.
Tout
c'est
à
pas
fait.
À l'acheteur.
Non. Et alors auprès de qui? Alors là c'est pareil, il y a confusion, quelquefois on s'adresse au vendeur et lui dit bah, « voyez avec le fabricant ». Alors absolument pas, c'est bien le vendeur, alors à condition qu'il soit basé dans l'Union Européenne, parce que ce droit s'applique dans l'Union Européenne, si vous avez acheté un produit sur un site chinois, ça ne va pas fonctionner, ça sera plus ouais. compliqué. Et donc le vendeur ne peut pas vous dire « adressez-vous au fabricant ».
En fait c'est à lui de faire le lien avec le fabricant.
Tout à fait,
après, ouais.
voilà. C'est, alors que effectivement les vendeurs souvent disent « bah non c'est pas moi, adressez-vous directement à la marque ». que le consommateur fait et donc perd du temps, etc.
Comment on agit?
Alors, si c'est, le magasin du coin, ben, on rapporte son produit avec son ticket de caisse.
Ouais.
On demande un ticket de dépôt. Si c'est un produit, si le vendeur
n'est pas... Pardon, on demande un ticket de dépôt.
C'est-à-dire, je vais déposer, j'amène mon four qui ne fonctionne pas, je dis au vendeur, faites-moi un ticket. Voilà, faites-moi un ticket pour prouver que, que je vous ai bien rapporté mon...
Ça, c'est, oui, c'est bien important de le préciser.
Tout à fait. Et donc, préciser, effectivement, pour qu'on la ramène. Ou bien si, effectivement, c'est loin, vous avez acheté par correspondance ou autre, et ben, il faut envoyer une lettre recommandée avec la facture ou le bon de livraison ou le ticket de caisse.
Très bien.
Donc, soit on y va physiquement, soit on envoie une lettre recommandée avec avis de réception.
Bien, j'ai cette fameuse garantie légale de conformité. Qu'est-ce que je peux obtenir en cas, effectivement, de problème avec le produit concerné?
Voilà, donc en cas de non-conformité, je peux choisir entre la réparation et le remplacement du produit.
C'est l'acheteur qui choisit?
Alors, pas tout à fait. Le vendeur peut repousser le choix, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui ne va pas, je dis, moi je veux tout de suite un remplacement. Si la différence de prix est manifestement énorme, disproportionnée entre les deux modalités, le vendeur peut dire, je vais d'abord vous réparer. Par contre, vous allez demander la réparation, vous allez avoir la réparation, vous allez reprendre votre appareil, il ne fonctionnera toujours pas, donc vous allez le ramener une deuxième fois, si vous êtes gentil, encore une troisième, puis après vous allez dire, maintenant ça suffit,
maintenant, j'exige
un remplacement. Voilà.
Peu importe la différence de prix.
Si la réparation n'est pas possible ou réalisable dans un délai d'un mois, on peut demander soit une réduction du prix ou l'annulation de la vente.
Très bien.
Donc, et ça arrive souvent, alors en particulier pour les voitures. On a eu souvent des cas où les voitures sont restées immobilisées 6 mois parce qu'on ne trouve pas ce qui ne va pas, etc.
Donc, c'est assez fréquent.
C'est assez fréquent. Donc si on demande une réduction de prix, à ce moment-là, on garde l'appareil, enfin on garde le produit défectueux, mais on demande la réduction du prix. Si on demande une annulation, évidemment, on est remboursé sur le prix d'achat entier, mais on doit restituer le bien.
Évidemment.
C'est logique.
C'est assez logique. On ne peut pas dire je le garde, mais remboursez-moi.
Voilà. On ne peut pas demander d'annulation de contrat si le défaut est mineur. C'est-à-dire, si c'est parce que justement, j'ai juste une rayure dessus, je ne peux pas dire vous annulez le contrat et vous me remboursez. Donc, les produits doivent être réparés ou remplacés. Alors là, c'est très important parce que souvent aussi, il y a des litiges par rapport à ça, sans aucun frais pour le consommateur. C'est-à-dire que j'ai installé un appareil électroménager, je l'ai fait installer par le vendeur. S'il ne fonctionne pas, le vendeur doit venir chez moi, démonter l'appareil et installer un nouveau. Donc tout ce qui est démontage, frais de port, etc., doit être pris. Ça ne doit rien coûter du tout au consommateur.
Mais on ne vous dit pas, c'est que le produit dont on charge, c'est tout. C'est toute la prestation qui est autour.
Exactement.
Qui est
ou alors quand c'est quelquefois, quand on doit renvoyer, on vous laisse les frais de port, etc. Non.
Ça
ne doit rien coûter effectivement au consommateur. Tout doit être pris en charge par le vendeur.
Il ne faut pas oublier qu'au départ, on a acheté un produit, il n'est pas conforme, c'est pas de notre faute.
Tout à fait.
Alors, on a parlé de la garantie légale de conformité. Maintenant, parlons de l'autre garantie légale, donc obligatoire, j'imagine, celle des vis cachés.
Tout à fait. Donc, elle est effectivement aussi obligatoire. Donc là, on a un dysfonctionnement avec le produit qui existe au moment de l'achat, mais qu'on ne pouvait pas voir. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte quelques temps après. Alors, on ne pouvait pas le voir, on a acheté. Voilà. Si on pouvait le voir, ça ne sera pas un vis caché, comme son nom l'indique.
C'est quoi les produits qui sont concernés par cette garantie légale de vis caché?
Alors, c'est tous les biens qui sont concernés, donc qu'ils soient neufs ou d'occasion d'ailleurs.
Pareil.
Oui. Mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, vendu par un professionnel ou par un particulier.
Par le particulier. C'est-à-dire que
ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir prouver que le particulier savait que ce qu'il nous a vendu avait un vis.
Okay.
S'il ne savait pas. Alors, le professionnel était censé le savoir puisque c'est un professionnel et qu'il a donc la connaissance. Si c'est un particulier, il ne savait pas forcément. Par exemple, vous achetez une voiture d'occasion à un particulier, lui n'a pas eu de problème avec et puis elle va tomber en panne juste après.
Oui, on ne peut pas imaginer.
On ne peut pas imaginer qu'il le savait et qu'il l'a fait exprès. Ou alors, ça va être très compliqué, plus compliqué.
C'est quoi un vis caché, si on précise un peu?
Alors, c'est un défaut qui existe au moment de l'achat, mais qui n'est pas visible ou inconnu du consommateur, et qui rend le produit impropre à l'usage pour lequel il est destiné. C'est-à-dire, si j'ai une voiture, il faut qu'elle fonctionne, etc. Si c'est une machine à laver, il faut qu'elle lave le linge. Ou alors, on diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis. Si j'avais su qu'il avait ce problème, je n'aurais pas acheté ce produit.
La voiture que j'ai achetée devait rouler à 110, finalement, elle ne passe pas les 90.
C'est ça. Ou alors je l'aurais acheté, mais je ne l'aurais pas payé le même prix.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc si l'acheteur a été informé du défaut, par contre, si effectivement on lui a dit, bah, écoutez, on vous vend cette voiture, mais on vous prévient qu'elle a ce problème, on ne pourra pas se retourner contre le vendeur puisqu'on le savait.
Il est plus caché.
Il est plus caché, c'est ça.
Combien de temps on a pour agir et contre qui dans le cadre de cette garantie légale des vices cachés ?
Alors, on a 2 ans, mais pas 2 ans après l'achat, 2 ans après la découverte du vice, c'est-à-dire quand je me rends compte du dysfonctionnement ou de ce qui ne va pas. Dans la limite de 5 ans après la délivrance du bien. C'est-à-dire, j'achète un véhicule d'occasion, qui a déjà 3 ans.
Ouais.
Je le découvre 2 ans après, ou dans les 2 ans, qu'il a un souci. Je peux effectivement faire jouer cette garantie des vices cachés. Par contre, j'ai 5 ans après la date d'achat. Donc, quand on achète un véhicule d'occasion, ça va faire 5 ans plus...
Plus les deux ans qui suivent. Donc, ça veut dire que globalement, ça dure 7 ans à partir du moment où on a découvert le vice caché.
Alors,
avant les 5 ans.
Quand c'est un bien neuf, quand je l'achète, donc j'ai 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans après l'achat.
Oui.
Quand c'est un bien d'occasion, c'est 5 ans aussi après l'achat.
Après
le premier achat.
Voilà.
Non, après l'achat que j'ai fait moi.
C'est ça, ok. Et du coup...
Alors là, c'est le vendeur ou le fabricant du produit.
Et...
Et s'il y a des ventes successives, l'acheteur peut agir contre tous les vendeurs successifs les uns après les autres, en plus du fabricant, parce qu'on ne sait pas lequel a caché, etc. Bon, ça fait un petit peu plus compliqué. Il faut que ce soit quand même important.
Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le cadre de cette garantie légale de vice caché ?
Alors, on peut obtenir l'annulation de la vente avec le remboursement du prix payé.
Mmh.
Alors, à condition de pouvoir rendre le produit, évidemment. On peut demander une restitution d'une partie de la somme en conservant le bien. C'est-à-dire, je le conserve, mais je l'ai payé trop cher, donc vous allez me rembourser la différence. Alors, par contre, dans cette garantie-là, contrairement à la garantie légale de conformité, c'est au consommateur à prouver que l'existence était antérieure à la vente.
Ah oui,
quelquefois, il faut effectivement une expertise pour prouver que c'est un vice caché.
La charge de la preuve, elle est basculée du côté de l'acheteur.
Alors, on a des cas où, effectivement, on a des séries de voitures où il est reconnu. On va sur n'importe quel site internet et on sait que telle voiture est là. Donc là, ça peut être un début de preuve, puisque toutes les voitures de cette catégorie ont ce même problème.
Ils ont été rappelés peut-être au garage.
En
tout cas, on connaît le problème. Il est largement connu. Parlons maintenant des garanties commerciales. On n'est plus sur les garanties légales, du coup, là.
Non, alors là, on n'est plus sur les garanties légales. Donc, elles sont proposées par le fabricant ou par le vendeur. C'est souvent une manière d'attirer le client. On lui dit la voiture est garantie 10 ans. Elles vont s'ajouter aux garanties légales. Donc, tant qu'on est dans la mise en œuvre de la garantie légale, c'est-à-dire les 2 premières années, il ne faut surtout pas faire marcher la garantie commerciale, on va sur la garantie légale qui est plus sûre. Donc elles s'ajoutent, elles font l'objet d'un contrat écrit. Sinon, si c'est juste écrit et qu'on ne le savait pas, qu'on n'a pas un contrat écrit qui précise le contenu et les conditions de mise en œuvre. Donc c'est là aussi, regardez toujours les conditions.
toujours.
Les conditions sont définies par le vendeur ou par le fabricant, selon que c'est le vendeur qui offre cette garantie ou c'est le fabricant.
Donc, raison de plus de vraiment bien les lire.
Exactement.
avant de l'acheter.
Dans les exemples, par exemple, on peut avoir les pièces qui sont prises en compte, mais pas la main-d'œuvre. On peut avoir, et on a très souvent des exclusions de certaines pièces, la batterie,
voilà,
etc.
On voit dans l'automobile,
dans l'automobile surtout.
Parce qu'on parle des pièces d'usure, on dit celle-là, on les garantit
exactement,
pas.
Exactement, voilà. Et les pièces d'usure, quelquefois, elles sont très importantes.
Oui, bien sûr.
Il y en a beaucoup.
C'est vrai.
Voilà. Donc, on peut exclure effectivement certaines pièces, certaines pannes aussi. Donc les conditions sont précisées dans le contrat, il faut bien regarder les exclusions de garantie, donc toujours lire le contrat. Et donc, alors, il y a dans ces garanties commerciales, il y a la fameuse extension de garantie, celle qu'on vous refile juste au moment où vous heurtez la carte bancaire pour payer, et on vous dit, vous faites, vous voulez
ça l'extension de garantie. Ça vous intéresse 3 ans de plus.
Voilà, c'est ça. Et donc, bon, c'est pas cher, etc. Donc, il faut savoir qu'elles sont toujours payantes et que, malgré tout, elles sont chères, voilà. Il y a aussi de nombreuses exclusions ou de la vétusté, ou etc. Ou donc la valeur du produit, quand on l'a fait, elle ne fonctionne plus. Donc, comme je disais, elles sont souvent proposées à la va-vite au moment de l'achat. Et sur les achats en ligne, c'est juste une petite case qui est souvent précochée et sur laquelle il faut effectivement faire très attention pour ne pas la payer sans s'en être rendu compte.
Mais il faut bien repenser à regarder le prix en rayon et vérifier qu'on paye bien le prix.
Exactement.
Et puis alors, après les garanties légales, la fameuse garantie commerciale, il y a ce que vous appelez les petites garanties. Ce qu'on appelle les petites garanties, c'est quoi ?
Alors, les petites assurances, ce sont des assurances donc complémentaires qui sont souscrites lors de l'achat d'un bien. Alors, c'est très souvent, et là, on a eu, on a encore d'ailleurs un gros problème avec les assurances téléphone.
Ah oui.
Puisque là, il y a une escroquerie en cours avec effectivement une société qui qui va passer au tribunal. Donc, c'est pour le téléphone, les ordinateurs, ou c'est pareil, vous passez à la caisse, vous avez acheté un téléphone, le vendeur vous dit, il y a une garantie gratuite d'un mois, est-ce que vous la voulez? Donc, vous dites les fameuses garanties gratuites,
et puis
au bout d'un, on ne vous précise pas qu'il faut effectivement la résilier dans le premier mois, et elle est reconduite, et vous vous rendez compte que vous avez payé, si vous ne regardez pas vos comptes au bout de quelques années, et que ça peut faire des sommes très importantes. Ou alors d'un service, pour le voyage, ça peut arriver aussi, des petites assurances, etc. Et puis, il y a la fameuse assurance des fuites d'eau. Vous recevez un courrier vous disant, attention, si vous avez une fuite d'eau entre votre compteur, etc., c'est à votre charge. Ça, c'est très, très fréquent. C'est proposé très souvent par les sociétés qui vendent de l'eau. Donc, généralement, ça ne sert à rien. Surtout que bien souvent, maintenant, on a son compteur chez soi.
C'est vrai.
Et donc, la fuite d'eau, elle est chez moi. Et donc, mon assurance habitation, elle va
prendre en charge.
Voilà. Donc, ces petites assurances, bon, elles sont pas très chères, c'est quelques euros par mois, mais au regard de ce qu'on a assuré, c'est la qualité des contrats, c'est trop cher. Ça ne sert à rien.
Puis parfois même, on ne se souvient plus le jour où ça arrive qu'on l'avait.
Tout à fait. Elles sont quelquefois souscrites sans qu'on s'en soit rendu compte, comme on disait. Voilà, on l'a vu au bout de plusieurs mois, mais on ne savait plus qu'on avait payé ça parce qu'on n'a pas signé ou parce qu'on a signé sur une tablette sans savoir ce qu'on signait, mais qu'on n'a pas de papier. Et donc, il y a une petite amélioration depuis le 1er janvier 2024, il faut le consentement du client écrit, signé, et l'assurance doit faire une information tous les ans. Donc si vous ne vous en êtes pas rendu compte la première année, on s'en rend compte quand on reçoit la formation au bout d'un an.
On peut donner quelques exemples de ces
fameuses petites assurances. Oui, alors ce qu'on disait, la fameuse assurance téléphonie mobile, alors là, c'est là vraiment à éviter. Bien souvent, effectivement, si vous avez une assurance vol, il va falloir avoir ces vols avec agression, c'est-à-dire que si on vous a volé dans votre sac, etc., c'est pas pris en compte, il faut qu'il y ait violence à côté. Enfin, donc il y a beaucoup d'exclusions, donc vraiment se méfier. Et puis il y a aussi les assurances qui sont données par les banques, les assurances moyens de paiement, alors qu'en fait, la banque légalement devrait prendre en charge les paiements en cas d'utilisation frauduleuse. Alors je dis devrait parce que c'est très très compliqué, c'est pas toujours le cas. Il faut vraiment quelquefois aller jusqu'en justice parce que les banques sont un peu de résistance.
Souvent. Très bien, Odette. Merci pour toutes ces informations sur l'ensemble des garanties qui existent autour du produit. Si vous n'avez pas pu entendre l'intégralité de cette chronique, vous pourrez la réécouter sur le site internet www.rcn-radio.org. Et puis, si vous avez besoin d'être aidé ou accompagné, on peut évidemment s'adresser à l'UFC Que Choisir.
Tout à fait. Donc, notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr. Vous pouvez déposer des litiges en ligne. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour nos permanences aussi.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser à l'UFC Que Choisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, maintenant, pour un prochain point rendez-vous conso. Ce sera sur RCN. Merci Odette, à bientôt.
À bientôt.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.